Comme tous les jours, on a de nouveau notre enseignant, le soleil, qui continue de briller, et les drapeaux, et les arbres. Et nous avons la directrice de Deschen Scholing, Catherine, qui est là. Bienvenue. Et Luciana, notre directrice de programme, qui était là déjà hier. Alors hier, j'ai évoqué, et je crois que c'était un peu mystérieux pour certains, le sujet des Korans. Et donc je me suis dit, bon, j'ai parlé de ça d'une façon très conceptuelle. Peut-être c'est mieux si je vous présente et on parle d'un Coran aujourd'hui pour voir ce qui se passe. Et comme j'ai dit, il y en a des centaines, des centaines, des centaines. Et en fait, c'est illimité parce que, comme j'ai dit, notre vie même est un Coran. Et tout instant présente un Coran. Mais on a un curriculum, un répertoire de des centaines de Corans. Et dans notre lignage, on se sert de plus ou moins entre 700 et 800. Il y a un recueil qui est classique, qui est peut-être le plus connu, c'est le Mumen Khan, et c'est un recueil qui était compilé dans le 13e siècle en Chine. Et ça a pris 48 cas, comme j'ai dit hier, des situations dans lesquelles il y avait un maître, un disciple, deux personnes, une phrase d'un poème, quelque chose qui était un exemple de comment on pouvait ouvrir vers cette expérience de ce qu'on ne voit pas d'habitude, ce qu'on peut appeler ça la nature essentielle de toute chose, l'absolu, tous les mots que j'avais donnés hier. Il se trouve que le titre Mumen Khan, ça veut dire la porte sans porte. En anglais, on dit gateless gate. Tout ça, je vous traduis en français parce que moi, j'ai fait tout ça en anglais. Mais j'ai cherché ce matin une traduction de ce recueil en français sur Internet et je n'étais pas très satisfait de ce que j'ai trouvé. Donc, j'ai choisi de faire la traduction comme ça au fur et à mesure. Donc, le titre, c'est « La porte sans porte ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Une fois qu'on a passé cette porte, on voit qu'il n'y a pas de porte. En fait, c'est ça que ça veut dire. La porte vers cette essence, vers cette... on a parlé de comment on chante le soir, la voix du Bouddha, qui est insurpassable. C'est comme ça. La voix du Bouddha est insurpassable parce que tout est la voix du Bouddha, donc il n'y a rien à surpasser ou pas. Il n'y a rien à l'extérieur de ça. C'est pareil avec la porte. En fait, il n'y a pas de porte. Mais il faut passer la porte pour savoir qu'il n'y a pas de porte. Alors, j'ai choisi de se servir d'un Coran qui est c'est un des classiques. Qui a une histoire qui accompagne, mais d'abord on va juste traiter ce qu'on appelle le cas. Je vais juste vous parler du cas, de quoi il s'agit. Ça ne va pas marcher comme ça, donc je vais faire comme ça. Donc c'est le numéro 28 des 48. Alors c'est un jour, il y a un moine qui s'appelle Tokusan, qui interroge un maître, jusqu'à le tomber de la nuit. Ils ont une discussion. Et finalement, le maître qui s'appelle Ryotan, le moine qui s'appelle Tokusan, le maître s'appelle Ryotan. Enfin, après un certain temps, Ryotan lui dit, il est tard, Il faudrait peut-être que tu ailles te coucher. Tokusan le remercie, il fait ses salutations, il lève le rideau pour sortir et il s'en va. Mais quand il arrive, il voit, c'est à la campagne, c'est une espèce d'ermitage en haut d'un monastère. Quand il sort, il voit qu'il fait très très nuit, quoi. Il fait noir. Et donc il revient, il dit, ah, c'est pitch black, on dit en anglais. C'est vraiment, comment on dit, le noir profond. Et il dit, ah, c'est le noir profond dehors. Et Ryotan dit, ah, d'accord, ok. Il allume une petite lampe. Et il le donne à Tokusan. Juste quand Tokusan va le prendre, Ryotan, il éteint, il souffle dessus. Comme toujours dans les Corans, à ce moment-là, Tokusan a une grande réalisation. Et il fait ses salutations. Ryotan lui demande, qu'est-ce que tu as réalisé? Tokusan répond, dorénavant, je n'aurai pas de doute sur les mots du vieil maître, du vieux maître, qui est connu partout sous le soleil. Il fait référence à Ryotan. Le lendemain, Ryotan, dans le monastère, vient comme ça pour faire un discours et il déclare, il y a quelqu'un parmi nous qui a des crocs comme les sabres et dans la bouche et comme un seau, un bol de sang. C'est des trucs un peu chinois-japonais. Si vous le frappez, il ne tournera pas sa tête. Un jour, il va s'installer en haut d'une montagne et établir la voie là-haut. Tokusan, sur ça, vient ici, à cette place, avec tous les commentaires sur les sutras qu'il trimballe sur son dos à travers le pays, et toutes les notes qu'il a faites sur ses sutras. Et il prend une torche, non pas une torche en français, on ne dit pas ça. Hein. C'est une torche, oui. Une lampe-torche, c'est l'autre chose, c'est ça, oui. Non, mais c'est une torche. Il dit, même si vous avez tout épuisé, toutes les doctrines, c'est comme mettre un cheveu dans le vaste espace. Même si tu as compris, même si vous avez appris tous les points vitaux de toutes les vérités du monde, c'est comme une goutte d'eau dans un ravin, ravine, non, ravin, non, on dit pas ça. Un ravin, on dit, ok. Immense. Et puis avec la torche, il a brûlé tous ses commentaires et tous les sutras qu'il avait. Sur ça, il a fait ses salutations et ils sont allés. Ils sont allés. Alors, ça, c'est le cas. Et donc, comme j'ai dit, l'étudiant, quand on travaille sur les Corans avec moi, ou avec n'importe quel maître, il faut mémoriser ça, cette histoire-là, et puis s'asseoir avec et essayer de faire un sens. Mais il s'agit de quoi, ça, toute cette histoire? Mais comme j'ai dit hier, c'est pas des sens conceptuels. C'est quelle est ton expérience de ça? Qu'est-ce qui se passe ici maintenant? De quoi il s'agit? Le cœur du sujet, de quoi il s'agit? Il y a une histoire qui va avec ça. Donc, Tokusan, en fait, c'était en Chine, c'était au 9e siècle en Chine. Et la Chine, comme j'ai parlé de Bodhidharma hier, était divisée. Au nord, il y avait les traditionalistes qui étudiaient les sutras, qui croyaient comme le truc traditionnel, doctrine traditionnelle du bouddhisme, qu'il fallait des vies sans fin pour s'éveiller. Et que, il fallait étudier les sutras, respecter les rituels, faire des statues et tout ça. Comme j'ai dit hier, Bodhidharma est arrivé dans le sud et il avait amené d'autres choses. Il avait dit non, c'est en dehors des sutras. L'enseignement, c'est dans ton cœur à toi. Il ne s'agit pas de mémoriser les sutras et disputer sur les doctrines, etc. Alors, Tokusan était un érudit, un expert sur le sutra du diamant, qui est un des sutras fondamentaux dans le bouddhisme, jusqu'au point où il avait un petit nom qui était Diamond Shu, c'était le roi du diamant, donc le roi du sutra du diamant. Il habitait dans le nord et il trouvait que c'était absurde ce qu'on faisait dans le sud. Il disait, c'est pas possible, on peut pas s'éveiller comme ça d'un instant à l'autre. Il faut étudier, il faut des vies après vie après vie pour s'éveiller, pour se réaliser. Il y a des gens qui sourient. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, on viendra. Donc, il dit, je vais dans le sud et je vais leur instruire. Je vais leur apprendre de quoi il s'agit. Il met toutes ces sutras, qui étaient probablement les scrolls, comme on dit, les... Oui. Charge ça sur son dos et trimballe ça à travers le pays. Sur son chemin, il rencontre, il a un peu faim et donc il s'arrête. Et il y a une vieille dame, dans les histoires de Zen, il y a souvent des vieilles dames, qui n'ont jamais de nom et dont on ne s'occupe jamais. Mais souvent, c'est la sagesse pure, ces vieilles dames. On revient là-dessus aujourd'hui et il y a des recueils maintenant, il y a un recueil qui est uniquement des femmes, des dames dans ces histoires qui on met dans la lumière maintenant. Donc il y a une vieille, c'est toujours une vieille, qui vend les gâteaux sur le bord de la route. Et j'essaie de trouver parce qu'il y a une astuce dans ça. Alors, les gâteaux qu'elle vend, ça s'appelle les tangines en chinois. Et ça veut dire... j'ai noté ça. Ça veut dire... Non, j'ai pas noté. Ça a un mot... Bon, peu importe. Elle vend des gâteaux. Et du thé. Et il arrive. Et... elle lui dit, qu'est-ce que vous avez sur le dos, là? Et il dit, ah, ça, c'est des commentaires sur le Sutra des Diamants. Et elle dit, ah, dans ce sutra, il est dit que l'esprit du passé est insaisissable, l'esprit du futur est insaisissable, et l'esprit du présent est insaisissable. C'est une des citations célèbres du Sutra des Diamants. Malheureusement, je le traduis probablement d'une façon pas juste, mais c'est ça qui est dit. Il y a quelqu'un qui connaît le Sutra des Diamants ici? Non. Bref, c'est comme ça. Je traduis, mais c'est peut-être pas insaisissable, mais c'est ça le mot. Et l'esprit, je ne sais pas si on dit ça. En anglais, on dit « mind », qui est beaucoup plus facile. The mind of the future, the mind of the past, the mind of the present. It is ingraspable. Et donc...
Impénétrable.
Quoi? Impénétrable. Insaisissable. C'est vraiment, c'est déjà, c'est ça, c'est saisir. Et donc, elle dit, monsieur, si c'est ça, avec quel esprit vous allez prendre ces gâteaux? Et il est bouche bée, il dit Mais il dit Ah non, elle a dit si vous pouvez répondre, je vous offre les gâteaux. Si vous ne pouvez pas répondre, je ne le vendrai même pas. Je ne vous le vendrai même pas. Alors là, il est sidéré. Et donc, il dit est-ce qu'il y a un maître zen par ici? En fait, il a le maître zen devant lui, mais il ne le voit pas. Et elle dit, oui, effectivement, il y a le maître Ryotan qui est à 5 km, je ne sais pas. Et donc, tout de suite, il va voir Ryotan. Il se présente à Ryotan, je suis un éminent expert sur le sutra de diamant, etc. Et donc, la suite de l'histoire que je vous ai racontée. Alors, c'est fascinant. Qu'est-ce qui se passait là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire que l'esprit du passé, l'esprit du présent, l'esprit du futur est insaisissable? Qu'est-ce qui se passe pour Tokusan au moment quand la lampe est éteinte, soudain? Et puis après, c'est radical quand même, hein? Mais on va le rencontrer Tokusan à la suite, ça c'est Tokusan jeune. À la suite, il va effectivement. C'est une véritable personne dans notre lignage. Hein. C'est pas une figure mythique, c'est vraiment un maître qui figure dans notre lignage. Et il va être radical. On va le rencontrer à un autre moment quand il dit si tu réponds, je te donne 30 coups de bâton, si tu ne réponds pas, je te donne 30 coups de bâton. Alors là, on est un peu coincé. Hein. Donc il a un radical, donc c'est un peu radical de prendre toutes ces notes, ces sutras, etc. et brûler. Alors qu'est-ce qu'il a réalisé? Je pense que les gens qui souriaient avaient une idée que c'est parce que il disait que c'est pas possible, il faut des millions de vies pour s'éveiller, ou c'est ça?
Non. C'était pas avoir une conversation qu'on avait eue plus tôt, mais c'était sur ce peut-être paradoxe entre l'immédiateté et l'infinité.
Ah oui. Oui, c'est ça. Parce qu'on avait parlé de ça hier aussi, cette dispute entre les écoles zen, entre petit à petit, niveau après niveau, vie après vie, et c'est maintenant, c'est vrai. Mais qui ne sont pas, l'un n'enlève pas l'autre. Hein. Les deux cohabitent parfaitement. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cours? Il y a des questions qui vous venaient ou est-ce qu'il y a des idées de ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des images qui vont rester comme ça, qui sont saisissantes? Est-ce que vous... Oui?
C'est quand même incroyable, ils ont un Coran sur des billes, quoi. Avec ses gâteaux au bord de la route.
C'est-à-dire? C'est-à-dire quoi?
La vieille dame avec ses gâteaux.
Ah ah! Et donc, on va avoir les petits morceaux de sagesse avec nos gâteaux? Peut-être? Ah ah! Oui, c'était long. Oui, Joël.
Est-ce que le Momen Koan, l'histoire de Tokusan, le sutra du diamant et celui qui l'enseigne, et l'histoire de la vieille femme et de Ryokan à la fin, tout ça, c'est le même cas?
Oui. D'accord. Oui, tout ça. Sauf que le cas, entre guillemets, c'est l'échange entre Tokusan et Ryotan, que j'ai raconté au début, qui est en fait la fin. Mais comme je dis, je pense que le reste n'était pas retenu parce qu'il y avait une femme, il y avait une vieille dame, je crois. Parce qu'à la suite, donc, ce recueil qui a été fait avec les femmes, cette partie-là est considérée comme un con en soi. Cet échange qu'elle a avec Tokusan.
Oui. Quand elle lui dit avec quoi tu vas saisir, quand elle dit l'esprit, ça suppose que la saisie, c'est l'esprit.
Tout à fait. Et le paradoxe, c'est que l'esprit est insaisissable, mais l'esprit ne fait que saisir. Oui. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est...
C'est sous-entendu, c'est l'esprit qui saisit.
Dans cette formulation-là, car quand on parle de l'esprit, j'ai dit « mind » en anglais, effectivement, il y a l'esprit qui saisit, mais il y a aussi l'esprit qui ne saisit pas. L'esprit ne fait pas que saisir. Disons. Ouais. Donc ça soulève les questions, mais qu'est-ce que c'est l'esprit? Et je ne suis pas satisfait de cette traduction en français, mais je crois qu'il n'y en a pas l'autre. Ouais, je crois que c'est ce qu'on dit. Mind. Qu'est-ce que vous dites en Shambhala pour ça? Mind. Oui, parce que
mental, c'est le mental ordinaire, et l'esprit, ça peut être plus élevé. Je sais pas si...
En fait, ils sont mélangés aussi.
Ils sont mélangés. Voilà,
oui.
Parce que le mental, c'est le petit crottin, mais c'est aussi ça qui nous permet d'avoir accès à autre chose.
Oui. C'est le même, en fait, qui se manifeste différemment. Quoi. Ouais.
C'est,
ouais.
C'est le recto et le verso de la même pièce.
Et oui, effectivement, souvent on associe le mental avec le pensée discursif et conceptuel. C'est vrai, ça. Ce qui est un peu le cas de Tokuzan, c'est que certainement il y a quelque chose dans son démarche avec le Sutra du Diamant qui est authentique. Enfin, il cherche quelque chose dans ça. Mais ça reste au niveau des concepts, plus ou moins, pour lui. Parce qu'il est...
Au niveau de l'intellect. En
fait. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Alors, souvent on dit, mais pourquoi à cet instant-là, avec Ryotan, quand il y avait le... Pourquoi à ce moment-là? Ça nous interroge aussi, quand on travaille avec les Corans. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est presque comme si Ryotan, en soufflant la bougie, il a illuminé la nuit, où il a enlevé le blackness, l'obscurité, oui, c'est ça. C'est ça.
L'obscurité.
C'est ça.
En même temps qu'il a...
Le fait d'avoir soufflé, voilà, c'est ça. C'est ça. Ça allait...
S'il avait arrêté son esprit.
C'est une façon de dire. Et on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, arrêter l'esprit? Qu'est-ce que ça veut dire?
Il a éteint et ça a allumé.
Notre façon de dire.
Il a éteint et il lui a donné la vie. Encore une fois, c'est... Les deux faces d'une même pièce, noir, jour, jour, nuit.
Oui.
Le jour, la nuit, c'est la même chose.
Oui.
Il a réalisé ça.
Oui. Oui, il y a une histoire fabuleuse que j'ai lue dans un livre de Mark Epstein. Je ne sais pas si vous connaissez Mark Epstein. Bon, c'est un pratiquant qui est aussi un pratiquant bouddhiste, qui est aussi psychiatre. Et il a écrit un livre qui était Pensée sans penseur, Thoughts Without a Thinker, je ne sais pas si, bon, c'est... Bref. Il a écrit un livre, je ne me souviens pas le titre, il a toujours été génial, mais il raconte dans cette histoire, dans une histoire qu'il a eue avec des amis. Il dînait avec des amis, lui et sa femme et un autre couple, et chacun parlait de leur travail, ce qu'ils faisaient, différentes, je ne sais pas, activités professionnelles et d'autres. Et donc, il raconte qu'il travaillait sur ce livre où il s'agissait de samsara et nirvana. Et il disait que le thème du livre, c'était que, justement, c'est ça, que samsara et nirvana. Et donc, la femme de l'autre couple dit, ah, c'est très intéressant ça, parce que moi, récemment, elle était en thérapie, dans un groupe de thérapie. Elle était participante. Et elle avait du mal, elle était toujours en colère, elle avait du mal à s'exprimer, etc. Et à un moment, elle a commencé à pleurer à cause de ça. Et ça l'avait complètement soulagée. Et elle était vraiment en paix à ce moment-là. Et donc, elle a dit, et maintenant, Marc, que je t'entends dire, je comprends. Some sorrow is nirvana. Bon, je dis en anglais parce que c'est un jeu de mots. Elle avait compris quand il a dit samsara, elle ne connaissait pas le bouddhisme, elle avait compris qu'il disait some sorrow. Sorrow, c'est le chagrin. Et un peu de chagrin et le nirvana, elle avait compris. Mais elle avait eu l'expérience, peu importe le mot. Elle a eu cette expérience que, un peu comme je ne me souviens pas ce que tu as dit, mais elle avait lâché son attachement à la colère, elle avait lâché ce qui le rendait en colère. On peut dire qu'elle a cédé d'une certaine façon, sa résistance avait cédé et elle pleurait, ça l'avait libérée et elle était en paix. Nirvana, c'est, la traduction souvent, c'est l'extinction. Mais c'est l'extinction de la séparation, de ce qui nous sépare de nous-mêmes, des autres, de ce qui, de la situation, etc. C'est extinction dans ce qui fait unité. On élimine, enfin, c'est pas qu'on élimine. On voit que ce n'est pas séparé. On a l'expérience de l'unité, disons. Et donc, je ne sais pas pourquoi. Ouais, parce que tu l'avais dit ça, quelque chose de cet ordre.
La lumière, la nuit,
c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Alors, on part de ça, on explique l'histoire, on explique les détails, les possibilités, on envisage, etc. Mais quand tu es sur ton coussin et tu travailles, c'est ta pratique, c'est autre chose. C'est vraiment que tu rendes ça à toi. Tu deviens Tokusan, tu deviens Ryotan, tu deviens la vieille dame. Tu ne te sépares pas de ça. Pour avoir ton expérience de ça, qu'est-ce que ça veut dire dans ta vie? C'est un peu comme l'expérience avec le nœud quand Hugues a dit, ah ben enfin, il l'a fait lui-même, et, ah ok. D'accord. On peut expliquer toute la journée comment faire. On peut rester ici toute la journée et faire des discours sur ce Coran. Mais ce n'est pas ça. C'est pas ça dont il s'agit ultimement. Ça, c'est juste un outil pour que toi, tu réalises ce que Ryotan a réalisé, que Tokusan a réalisé, que la vieille femme avait réalisé. Et on dit donc que, au moins dans le zen, je ne sais pas, je pense que dans le reste du bouddhisme aussi, la nature de la réalisation du Bouddha, le premier, l'homme qui, grâce à qui on est là, la nature de son expérience de la réalité est le même. La nature de cette expérience, c'est le même de nos expériences quand on a cette expérience. Évidemment, le contenu va être différent, les circonstances vont être différentes. C'est singulier pour chacun, mais la nature est la même. on voit la même chose. Enfin, c'est même pas voir, mais c'est une façon de dire. On réalise la même chose. Lui, il a exprimé ça. Quelle merveille, quelle merveille. Tous les êtres, depuis le début des temps, ont la même la vertu et la sagesse du Tathagata. Tathagata, c'est celui qui s'est éveillé. Lui, ça s'est passé quand il regardait l'étoile du matin, sous un arbre, quelque part en Inde. Ce ne sera pas le cas pour nous. Mais la nature de ce qui est réalisé, c'est le même. C'est pour ça qu'on dit que quand on parle de la réalisation de Bouddha, ce n'est pas quelqu'un spécial. Et ce qu'il a réalisé n'est pas spécial, entre guillemets. Il a une profonde réalisation de la réalité absolue. Et surtout, il était un extraordinaire pédagogue, charismatique, qui a su traduire ça et le présenter pour que ça perdure aujourd'hui. Mais on dit que je crois que c'est Nisargadatta, le maître Vedanta, qui avait dit il ne faut pas confondre le maître, son histoire et le message, parce que c'est comme si le facteur nous amène une lettre et on lit, et c'est extraordinaire la lettre qu'on a reçue, et on dit que c'est le facteur qui est, et on commence à vénérer le facteur. Il a juste livré le message. C'est pareil avec le Bouddha. C'est, oui, on se souvient. On l'utilise comme exemple, on suit son exemple. Ryotan, c'est un exemple. Tokusan, c'est un exemple. Mais c'est Tokusan qui a réalisé ce qu'il a réalisé, c'est pas Ryotan. Ryotan était perspicace, il était attentif, il voyait clair, il voyait où il était, Tokusan, et il savait le mot juste, la situation juste, pour, il sait pas, mais c'était une tentative. Et à ce moment-là, c'était comme on dit avec le poussin et la poule, il y a un instant où c'est parfait. Les deux, le poussin pousse de son côté, la poule de l'autre, et boum, tchic, à un moment, ça s'ouvre. C'est pareil dans ces histoires. C'est juste à cet instant-là. Mais c'est le Tokusan qui a réalisé ce qu'il a réalisé. C'est pareil autant. C'est pour ça qu'on passe notre temps à s'asseoir et personne ne peut le faire pour toi. Heureusement, heureusement. Mais encore une fois, il faut dire quelque chose. On essaie de trouver les moyens habiles pour qui correspondent à la situation. Donc, si je ne parlerai pas comme ça devant des collègues dans un bureau ou à une réunion de famille à Noël, je ne parlerai pas comme ça. Hein. Et c'est, donc, tout dépend du contexte, de la situation, les gens. Et les moyens habiles sont sans fin. Bon, il y a certains qui sont répertoriés. Mais en fait, chaque moment, vous avez l'occasion de s'éveiller. Et donc, tout est un moyen habile. Il y a aussi cette histoire que je raconte régulièrement sur la. Qui était. Je crois que c'est le rabbin au XVIIIe siècle, au au XVIIe siècle en Pologne, je crois, qui raconte ça. Il y a des histoires, quelqu'un savait comment il s'appelle? Je te regarde parce que tu es polonais, mais non, je ne sais pas. Je ne sais pas, bref. Et donc, il raconte cette histoire d'un jeune yeshiva, des jeunes qui étudient ensemble, et un grand rabbin qui va venir dans un village à un ou deux jours de marche de là. Et donc, il décide qu'il y aura un parmi eux qui va aller voir ce grand rabbin. Et tout le monde cotise pour qu'il puisse faire ce chemin, le jeune homme, et donc il le fait, il part, il marche deux jours, il va là-bas, il arrive. Il n'est pas très près, c'est une grande assemblée, il est un peu sur le bord de côté. Et il reste pas très longtemps. Et puis il s'en va, il rentre, deux jours de marche, etc. Il revient voir ses camarades et ils ont dit « Alors, qu'est-ce qu'il a dit ? Comment c'était ? C'était... Quelle parole tu as retenu ?» Il a dit bah, « Rien, je voulais juste voir comment il fait lasser ses chaussures. » Parce qu'en fait, ça, c'est un enseignement. Comme je dis, c'est les arbres, c'est le soleil, c'est tout. Et vraiment, est-ce qu'on peut, dans nos vies, manifester ça? Se mouver dans cette vie, avec attention, pas être coincé, est-ce que je fais bien ou mal, mais être présent à ce qui est et répondre à la situation avec justesse. C'est ça, parce que, comme on disait l'autre jour, il n'y a pas de personne éveillée, mais il y a des actions éveillées. Ou, comme Shogyam Trungpa, une société éveillée, qui est faite de tout un tas d'actions, activités éveillées. Et Ryotan fait une action éveillée, et Tokusan, ça fait quelque chose pour lui. Et à la suite, il va faire son chemin et il va, on peut dire que brûler les sutras et tout ça, c'est une action éveillée. Enfin, c'est une action qui est une réponse à une situation une réponse qui va éclairer la réalité absolue, l'unité et pas la séparation. J'ai fait ça pour regarder l'heure et puis j'ai pas regardé. Oui, ok. Alors il nous reste 20 minutes, est-ce que... Oui.
L'action éveillée, la justesse. On n'a pas forcément des actions éveillées.
Pourquoi pas?
En fait,
c'est une question, hein. je te demande.
Oui, mais c'est ce que je comprends, c'est que la justesse, la justesse dans ce que l'on fait, c'est une action éveillée.
Alors, nous, là, on introduit les questions. Alors, qu'est-ce que c'est justesse? Qu'est-ce que c'est action éveillée?
C'est plutôt ça, la question.
C'est ça, oui, je crois que c'est ça. Ouais. Oui. Car, quand je dis en répondre à la situation avec justesse, revenons à quel est le principal obstacle à notre expérience d'une unité. Qu'est-ce qui passe à travers pour que on ne voit pas l'unité de toute chose, la non-séparation. Comme on le disait, c'est cet attachement à moi, à une idée de qui je suis et l'autre. C'est ne pas voir l'unité. Je suis attaché à moi, quoi, à une idée. Mais si on décortique tout ça, comme on avait dit, et les Tibétains sont merveilleux pour ça, parce qu'ils vont vraiment décortiquer ça jusqu'à l'épuisement, il n'y a pas de moi. Enfin, c'est une illusion. notre idée qu'on a de soi est une illusion. C'est notre illusion fondamentale. Et parce qu'on est attaché à cette idée, on va agir avec... On va agir de cette position d'attachement. Donc, je vais agir parce que je vois que les gens me voient. Je trouve que je suis nulle et donc je vais me cacher. Je vais être agressif avec quelqu'un parce que je veux qu'il me... Je ne vois pas qu'on est un et donc je veux qu'il soit autrement. Il ne fait pas ce que je veux et donc je vais être en colère. Je ne vois pas ma perfection et donc je ne vois pas la perfection des autres non plus. Tout vient de là. Alors, on donne parfois cet exemple de si on marche dans la rue, disons Paris, une grande ville, les gamins qui jouent au foot, et il y a le ballon qui est jeté sur le voie où il y a les voitures. Et il y a un jeune qui va courir après le ballon. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va dire, on va passer un jugement tout de suite, mais ce gamin, il est bête, pourquoi il fait ça? Quelle idée les parents qui laissent jouer les enfants dans la rue? C'est un ballon de foot extraordinaire qui vient du Coupe du Monde. Ça va être détruit. Ce gamin est mignon. Il est moche. J'ai pas les chaussures qu'il faut pour courir dans la rue. Les automobilistes roulent trop vite. Ils font pas attention. Ils sont débiles. Si j'intervienne, on va trouver que je suis extraordinaire. Ou si j'interviens, tout le monde va dire, oh, mais c'est bête. Elle a l'air ridicule. Elle pense qu'elle peut courir, mais avec ses chaussures, c'est ridicule. Bon, est-ce qu'on va faire tout ça? Ou est-ce qu'on va juste prendre le gamin et l'empêcher d'être écrasé par la voiture? Probablement, on va prendre le gamin pour le sauver. Mais si on prend cet exemple et on voit dans notre vie de tous les jours ce qu'on fait, on n'agit pas comme ça d'habitude. On va agir en fonction de toutes ces autres choses que j'ai citées. Et ça coince donc. Comme dans la traduction de Dukkha de Bouddha, c'est la souffrance de... malaise qu'on a, qui viennent de notre attachement, c'est, le dukkha, ça traduit, c'est une image d'un roue. Et c'est le roue est coincé. C'est pas assez huilé. Il n'y a pas assez d'huile, et donc c'est coincé. C'est une huile qui ne tourne pas. Une roue qui ne tourne pas. Et c'est ça qui se passe pour nous. On est coincé par toutes ces choses, tous ces attachements, toutes ces idées qu'on se fait. Et donc, on n'agit pas avec justesse. Peut-être, parfois, ça va marcher. Je ne dis pas que c'est toujours comme ça. Mais si on regarde le monde autour de nous, on voit que beaucoup, beaucoup de ce qui se passe, toute la construction de nos sociétés, de consommation, etc., a ça comme origine. Parce que si on agissait plutôt de « on est un », il y aura un partage des ressources autres. Et il n'y aura pas cette accumulation, il n'y aura pas ce qu'on fait aux arbres, à la planète. Comme on a dit, il n'y aura pas des guerres. Mais restons juste simples avec nos vies, avec les gamins dans la rue. Parce que c'est vraiment si simple que ça. Hein. C'est très, très basique. Oui,
on peut penser qu'on fait juste, mais ce n'est pas juste, au sens de ce que tu as dit là.
Plus on s'assoit, plus on devient plus clair. C'est comme j'ai donné l'exemple à quelqu'un hier. S'asseoir, c'est comme ce bocal qui est plein d'eau sablée. Et si on le secoue, évidemment, l'eau n'est pas claire du tout. C'est plein de boue, c'est plein de sable, on ne voit pas à travers. Mais si on pose cette bocale et on le laisse tranquille, tout ça va se poser et l'eau va être plus claire, va être claire. Bon, cette métaphore va jusqu'à un certain point parce que ça donne l'idée qu'il y aura tout un tas de sable en bas qu'on ne va pas toucher. Et ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça non plus. Mais c'est juste une image pour donner qui est parlant. On peut comprendre que... Et on nous voit... Je crois que chacun parmi vous, vous avez cette expérience. Vous êtes probablement plus clair aujourd'hui, en début du troisième jour, que samedi soir en arrivant. Mais peut-être que vous n'êtes même pas conscient de ça encore. Moi, je le sens, pour moi-même. Et je le sens pour vous. Je le sens pour le groupe. Et à la fin de la semaine, ça va être encore plus fort. Ce sera plus clair, plus clair. Parce que c'est intense. 7 heures de méditation, comme ça, en silence, c'est intense, quoi. On ne peut pas faire ça, enfin, si, il y a des gens qui font ça dans les monastères, mais nous, ce n'est pas notre cas. Mais on peut faire ça avec régularité dans nos vies.
Et quelque chose qu'on a partagé souvent avec les gens qui étaient à la transmission de joie, c'est que, bon, c'était une semaine, et les invités sont arrivés de l'extérieur qu'il avait invité à sa transmission. Et c'était, c'est quoi ça? Clomp, clomp, where's my room? Wouah! Tout d'un coup, la différence entre, on était arrivé à être vraiment, on était en mèche, quoi, et les autres arrivent vraiment en train de jeter leurs affaires partout. C'était très, enfin, très choquant. Pourtant, c'est des gens très sympas, hein, et même certains pratiquaient, mais cette semaine de...
Oui. Et on le voit quand on va partir, on va le voir aussi. Là, on n'est que mardi, on est déjà en train de parler de partir, mais... Parce qu'un jour, il faut partir. Et c'est vrai qu'on va voir les différences quand on... Oui.
Séparé de ceux avec qui je reviens, justement. Que ce ne soit pas de nouveau, ben moi je suis sage, et les autres non.
Oui, c'est ça. Parce qu'on n'est pas différent. C'est juste que les circonstances dans lesquelles on était et on est sont différentes que les circonstances dans lesquelles eux ils sont. Et autrement, il n'y a pas de différence. C'est juste les circonstances.
Peut-être avec quelqu'un. Mais c'est complètement ordinaire, la opportunité. C'est it's just here all the time.
Ou comme disait le maître de mon maître, quand quelqu'un a posé cette question, à la fin d'une retraite, disons, oh, demain il faut partir, j'ai ma femme, il faut payer l'assurance auto, j'ai un grand projet au travail, il faut laver les vitres de la maison, je ne sais pas. Et il dit ici, c'est bien joli, tout le monde est content, tout le monde est heureux, on travaille ensemble, on s'assoit, c'est calme, il n'y a rien à faire, je n'ai pas à faire la cuisine, etc. Et donc, le maître de mon maître, j'étais là, je l'ai entendu dire, très simplement, si tu ne veux pas quitter le zendo, le temple, le dojo, ne rentre pas dans le zendo, le dojo, le temple. Mais il ne voulait pas dire, ne vienne pas ici, ne vienne pas à la retraite. Si tu veux pas partir, ne vienne pas à la retraite. Ce n'est pas ça qu'il voulait dire. Il voulait dire, c'est dans ta tête que tu fais la séparation entre temple extérieur, retraite, pas retraite. C'est un peu comme les drapeaux et l'éléphant dont j'ai parlé. C'est très fort comme image, quoi.
N'empêche qu'il faut faire gaffe en conduisant sur le périphérique autour de Paris, en quittant Nzendo. Hein.
Tout à fait.
Eux,
tout à fait. Oui, tout à fait.
L'ouverture.
Exactement.
L'opportunité.
Exactement.
Moi, j'ai cette éternelle question qui est comment vivre dans ce monde et cette société.
Mm-hmm.
Et il y a beaucoup de situations dans lesquelles je ne vais pas parce que justement je n'arrive pas forcément à être comme ici.
C'est-à-dire
il y a des situations, il y a des échanges qui, dans la vie mondaine qui me paraissent qui me fatiguent. Parce que pour moi c'est du bavardage, c'est de la pollution, c'est du trop. Et pourtant, rentrer, sortir, et pourtant, le fait d'être en lien avec l'autre qui est mon semblable, je devrais pouvoir être en capacité d'être présente n'importe où comme je suis présente ici.
Alors, quand
c'est
tu.
C'est ça en fait que je. Comment faire en fait pour vivre en fait à l'extérieur comme on vit ici?
On peut pas parce que c'est pas ces circonstances, c'est pas ces conditions.
Oui.
Donc
enfin,
c'est
des circonstances. Parce que tu as dit que en fait c'est à l'intérieur où que l'on soit. C'est,
c'est vrai. Et c'est
juste que voilà.
Donc juste pour rebondir sur le. Le discours, le bavardage, qu'est-ce que tu avais dit?
Ah oui, du bavardage, c'est de la pollution.
Ok. Donc, qu'est-ce qui. Pourquoi, c'est, pourquoi tu l'appelles ça? C'est quoi qui est.
Parce que c'est, par exemple, le ballon qui traverse la route et tout le monde va y aller de son commentaire, quoi.
Okay. Et pourquoi ça te fatigue?
Parce que j'ai l'impression que c'est du. Justement, ça remue encore plus. J'allais dire la merde, ça remue encore plus la vase, quoi.
Tu sens ça,
ouais,
ça.
Ouais,
okay.
C'est trop pour moi en fait. Ça me...
Et alors, est-ce que tu peux voir que. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça?
Oui, parce que moi j'ai fait ça.
Exactement.
Je continue.
Exactement. Donc, ça c'est essentiel de voir. Quelle est l'origine de ça? Pourquoi tu et tu dis, ok, pourquoi j'ai fait ça? Et quand tu vois pourquoi tu le fais, tu comprends pourquoi eux, ils le font.
Oui.
Et ça change complètement le...
Ça continue à m'emmerder quand même, mais...
Oui. Mais c'est une étape d'avoir de la compassion pour cette action. C'est une première étape. Et après, on peut choisir de... ne pas être dans cette situation, de ne pas de réagir, de répondre à ça autrement que de ta gueule, je sais pas ce qu'on dit, ou l'agacement.
Ça peut être le silence.
Mais c'est essentiel de savoir pourquoi, quelle est l'origine de ça, et ça change vraiment. C'est comme j'ai donné cette image du Christ qui regardait pauvre Jérusalem, parce qu'il savait de quoi il s'agissait. Il savait d'où ça venait, toute cette activité, toute cette frénésie de consommer, d'acheter, d'accumuler, d'arriver, d'être vu, d'être plus fort, plus intelligent, plus drôle. Et le contraire de tout ça. Baisser les autres, écraser les gens, tout ça. Donc, si on sait d'où ça vient, ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter, mais ça s'arrête en nous, cette activité. Oui.
Moi, je voudrais un peu rajouter par rapport à ça que la pratique, en fait, elle nous donne la force aussi d'être. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti pour moi, d'être dans ces endroits qui nous paraissent difficiles à supporter ou qui nous paraissent. Enfin, qu'on a envie de fuir. J'ai l'impression que. Enfin, en tout cas, pour moi, j'ai eu l'impression que la pratique m'avait apporté un peu ça. Et puis de retourner à la pratique, ou de retourner même dans une séchine, petit à petit, c'est comme si ça donnait la force d'être présent là et d'accepter ce que tu dis, d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que les gens sont comme ça, pourquoi moi je suis comme ça aussi, et du coup de comprendre, mais en même temps d'avoir la force de rester. Je ne sais pas si...
Oui, bah oui, tout à fait. Oui. Absolument. On gagne en confiance en faisant ça, on gagne en force, c'est... Oui.
J'ai souvent demandé pourquoi dans les histoires zen, les gens, ils n'avaient jamais l'éveil sur le coussin. Mais, enfin bon, rarement, c'est toujours en dehors du coussin. Et en fait, j'ai l'impression que c'est... du coup, ça me donne un peu une réponse, c'est que l'éveillé, il n'est jamais sur le coussin, il est ailleurs. C'est toujours dans l'action.
Oui.
Quoi.
Oui.
C'est toujours dans...
Oui. Ben, c'est intéressant parce que, comme on dit dans le zen, c'est que, enfin, la raison pour laquelle on se lève et on fait la marche, c'est la caractéristique du zen aussi, c'est que ça se passe dans l'activité de tous les jours. Et en Chine, ils étaient obligés de se cacher parce qu'ils étaient persécutés, les bouddhistes, et donc ils créaient des petites fermes, les communautés agraires, rurales, et ils s'habillaient comme tout le monde et ils se réalisaient en faisant leur chant, en faisant leur vie communautaire, quoi. Donc probablement c'est pour illustrer en plus ça, et en fait c'est ça qui se passe, c'est parce qu'on peut avoir une réalisation sur le coussin, mais ce qui importe c'est qu'est-ce qui se passe quand on se lève. Je ne suis pas sûre, j'essaie de penser sur un exemple de quelqu'un que c'est sur un coussin. Je suis sûre qu'il y en a, mais je ne sais pas. Quoi ?
Le Bouddha.
Le Bouddha, oui, il regarde le soleil. Oui, c'est vrai, tout à fait. Ouais. Parfois, ce n'est pas aussi net que ça. Oui. Exactement, oui. Et j'ai lu quelque part où il disait à ses élèves aux États-Unis que ce que eux, ils essayaient de faire en Occident, justement, comme ça, laïque, était extrêmement difficile. Il dit, si on compare avec la vie monastique, c'est comme essayer de s'éveiller au milieu des freeways à Los Angeles. C'est s'asseoir au milieu de les... Et c'est vrai. Alors, est-ce que c'est plus difficile ou non? Je pense que les moines, ils importent beaucoup de problèmes avec eux, parce que le fondamental reste là. Hein. C'est là où, dont il s'agit. Je crois qu'il est temps. Donc, merci, je suis désolée d'arrêter là. Il y avait une autre question là, non? Personne? Ok. Merci.